Vertigo.
N'ayez pas peur, mesdames et messieurs, ce sont des acteurs qui jouent.
Le débat cinéma.
Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Vous renvoyez le scénario, et quand vous serez prêt, vous appelez mon agent.
Il n'y a pas de metteur en scène dans ce film de merde.
Ça marche toujours. C'est le débat cinéma dans Vertigo jusqu'à 18h. On accueille Stéphane Goubeau qu'on lit dans le temps. Bonjour Stéphane, comment
bonjour
ça va?
Bonjour Pierre-Philippe, très bien, merci.
Et vous êtes face à Raphaël Boucher.
Toujours là, bonjour.
À ma droite.
Vaillante.
Vaillante. On va commencer avec Jusqu'ici, tout va bien, le film de Mohamed Hamidi qui était notre invité lundi avec Gilles Lelouch, Malik Bentala et Sabrina Ouazani. L'histoire tient en deux lignes. Là aussi, une agence de com parisienne qui était faussement établie en banlieue pour bénéficier d'exonération de taxes est contrainte par le fisc, de déménager à La Courneuve, donc en banlieue, pour de vrai, donc.
Vous devez à l'administration fiscale 1 750 000 euros.
Ah, excusez-moi, faut que je les paye. On déménage.
Moi, je te suis au bout du monde.
À La Courneuve.
Ah oui, quand même.
27% de chômage des jeunes, une incivilité toutes les 20 minutes.
Et pour le recrutement, vous devez avoir au moins 4 nouvelles recrues dans la zone franche.
Ouais, j'ai besoin de monde, là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail.
Samira Bellarbi, c'est pas où?
Non, c'est ma femme.
Elle a pas pu venir, c'est ça?
Si, mais moi je viens d'abord, comme ça je regarde si tout va bien, tout ça.
C'est elle qui va venir travailler, c'est pas vous?
Oui, bien sûr, on est ouvert quand même.
Voilà un extrait de la bande-annonce du film dont nous allons parler maintenant. Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi. Stéphane Goubeau, comment avez-vous pensé?
Jusqu'ici tout allait bien, maintenant je vais en parler.
C'est ça.
Un peu ça. Dommage, on a entendu Barry White, mais ça a été coupé au moment. C'est un bon moment du film, voilà, ouais. Barry White, parce qu'autrement, ouais. C'est un peu difficile quand même. Non, film de banlieue, on se dit qu'il y aura un intérêt, étant donné qu'il est réalisé par Mohamed Hamidi, qui connaît bien les banlieues. Il vient de Bondy, en lien avec la Suisse d'ailleurs. C'était le président de l'association Bondy Blog, ce projet de l'hebdo, où les journalistes suisses étaient délocalisé, elle se relayait comme ça à Bondy. Donc quelqu'un qui connaît vraiment bien la banlieue, on se dit qu'on va peut-être avoir un peu autre chose sur la banlieue. Et finalement, pas vraiment. On parle donc de ces zones franches, en fait. C'est comme vous l'avez dit, ces entreprises faussement domiciliées avec juste des adresses fictives, sans appeler les îles Caïmans, Jersey, de la banlieue parisienne. Donc on pense qu'on va vraiment parler de ces zones franches, de ces problèmes qu'il y aura peut-être, je vais pas dire qu'on va flirter avec le documentaire, mais qu'il y aura peut-être un ancrage comme ça intéressant. Parler peut-être de discrimination positive, parce que le fait que ces entreprises qui sont basées doivent avoir un tiers, je crois, de leurs employés qui viennent vraiment de la banlieue. Tous les thèmes qui sont totalement évacués. Et finalement, on continue à véhiculer certains clichés. Donc, on aura vraiment la violence, voilà, le besoin.
Ils ne sont pas tous évacués, puisqu'on entend justement ces questionnements-là à un moment donné dans le film, non?
Ouais.
Avez-vous au moins, en vertu du nombre d'employés que vous avez, au moins 4 employés?
Voilà, il y en a 4. Bah, du coup, on les engage, hop, et puis on repasse dans la comédie directement, okay. Puis on évacue. Ce n'est pas une comédie sociale, il l'avait dit d'ailleurs. Après, en premier film qui était une comédie dramatique, en deuxième film qui était une comédie sociale, il voulait faire une pure comédie. Mais du coup, à mon avis, ça fonctionne pas, parce qu'il y a justement ces clichés. On voit des petits gamins qui raquettent comme ça, voilà, qui enlèvent une roue de voiture pour raqueter les gens qui coupent l'électricité. On voit les petites magouilles. Et finalement, en fait, alors attention, spoiler, bouchez-vous les oreilles, je sais pas. Mais finalement, l'entreprise va être sauvée grâce aux magouilles, en fait, de ces gens de banlieue qui forcément trafiquent du shit, deal, etc.
Les gens de l'entreprise, ils s'y plient quand même aussi. Ils en profitent.
Mais si on veut survivre en banlieue, plions-nous aux petites règles de racaille de banlieue. C'est un peu ça. Voilà. Je trouve un peu court.
Moi, j'ai pas entendu du tout ce message-là. J'ai vu un film que j'ai trouvé plutôt bon. Alors, c'est vrai qu'on peut le reprocher de pas être extrêmement mordant, d'avoir un fil narratif assez ténu, d'être un peu gentillet par instant, mais je trouve qu'il assume totalement le fait d'être un vrai feel good, assez amusant. Il soigne très très bien ses personnages, tous ses personnages. Moi, c'est ça que j'aime. Je trouve que le personnage de joué par Malik Bentala est irrésistible. Il est insupportable. C'est une tête à claque et il va gagner les cœurs de tout le monde, y compris ceux du spectateur. Il est extrêmement drôle quand il décrit les codes de la banlieue. Là aussi, tous les clichés qui sont passés au crible, parce qu'on ne marche pas pareil dans la banlieue, on ne parle pas pareil, on ne s'habille pas pareil, on ne siffle pas les filles pareil. Et il s'agit d'apprendre ça aux nouveaux venus. Il s'agit en fait un peu d'une transhumance, comme dans La Vache. La Vache, on avait un...
Qui était le film précédent de moi.
C'est ça, voilà. Film, ouais, qui avait eu pas mal de succès. Oui. On avait un paysan qui sortait de son bled algérien, qui allait à pied avec sa vache jusqu'au salon de l'agriculture à Paris. Là, c'est aussi une transhumance. Alors, Peut-être que ce qui marchait mieux dans La Vache, c'est qu'il s'est très très bien filmé la naïveté, la candeur des gens.
Vous allez dire les vaches.
aussi. Vache. Non, mais le film a quelque chose de très naïf. Et dans La Vache, ça marchait peut-être mieux parce qu'il y avait cette naïveté du personnage. Et le film épousait la psychologie de son personnage. Peut-être que là, c'est pas tout à fait aussi réussi. Mais il y a certains partis pris que je trouve vraiment intéressants. Ne pas montrer la banlieue, par exemple. Je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'il a oublié de filmer la Courneuve ? Parce que quand même, Gilles Lelouch arrive et dit, regardez, on dirait Le Corbusier. Sauf que les immeubles alentours, on les voit quasiment pas. Ouais. Et c'est un vrai parti pris, je pense, ouais, de mise en scène.
De bureau et de voiture, en fait.
C'est ça. On est dans des lieux clos, mais parce que la société s'appelle Happy Few, on est toujours dans sa bulle. C'est des personnages qui ont du mal à sortir de leurs propres préjugés. Et c'est assez bien montré dans la mise en scène. Et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il ne filme pas les immeubles de la Courneuve, mais toujours dans ses bureaux, il y a un poster avec la Tour Eiffel, comme pour montrer que la Tour Eiffel, c'est le symbole de tout le monde, y compris des banlieues. Et je trouve qu'il a une manière, grâce à ça, mais c'est un dispositif très simple, sans discours surligné, d'intégrer la banlieue au Grand Paris, dans le fond.
Oui. Mais il aurait peut-être dû peut-être en sortir et plus se confronter. Est-ce qu'aurait été vraiment voilà le film d'immersion où on est voilà dans une autre réalité, etc. Parce que moi j'ai un problème aussi avec le timing coming quand on veut faire une bonne comédie. Là, c'est parfois un peu surécrit. Il y a des gars comme en rendez-vous galant, le premier rendez-vous galant raté, qu'on voit venir vraiment à des kilomètres et tout. Donc j'ai un problème avec une pure comédie où on ne rit pas. Honnêtement, moi je voilà.
Vous n'avez ri à aucun moment.
Non.
Mais parce que c'est aussi d'une grande douceur pour ce jeune amoureux qui est absolument nul et qui comprend rien à ce qui lui arrive ni comment on parle aux filles. Et puis il y a une sorte de gap culturel immense entre les deux.
Voilà, mais quand une autre collègue lui dit, alors tu sais, elle vient de Paname, ouais, attention, donc il faut l'amener dans un bon restaurant, on sait très bien que ça va être la loose qui va l'amener dans un restaurant de banlieue, enfin en grec, qui est donc les grecs qui sont les kebabs pour eux, ou enfin dans un truc comme ça. Donc voilà, mais j'ai un problème avec l'écriture quand même. Mais c'est vrai que c'est pas un film indigne que j'ai détesté, voilà, mais il m'a... peut passer par-dessus, on dira.
Ce film, c'est Jusqu'ici, tout va bien, Mohamed Hamidi, avec Gilles Lelouch, Malik Bentala et Sabrina Ouazani. Mohamed Hamidi était notre invité lundi dans Vertigo. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ce film. Voilà, je me permettais de donner mon petit avis.
Vous avez le dernier mot, c'est passage. Bien.
Voilà, comme ça, deux contre.
Non, pas du tout. Non, c'était... voilà. On va passer maintenant à Mary Stuart Reine d'Écosse de Josie Rourke avec Saoirse Ronan et Margot Robbie.
Mary Stuart est condamné à mort. Sur ordre de notre souveraine Élisabeth, reine d'Angleterre.
Comment en est-on arrivé là ?
On se questionnait sur la prononciation du nom de cette comédienne. Ça s'écrit Saoirse.
Il me semble que c'est quelque chose comme Saoirse. J'ai une collègue qui maîtrise ça très bien. Chaque fois, elle me reprend. Il me semble que c'est quelque chose comme Saoirse.
Voilà. Très bien. Donc l'histoire, je vous la résume. Reine d'Écosse et reine de France jusqu'à la mort de son mari François II. Mary Stuart, la catholique, rentre en Écosse, une Écosse devenue protestante. Elle est emprisonnée par sa cousine, Élisabeth Ier, reine d'Angleterre, et sera captive pendant 18 ans avant son exécution. Je ne spoile rien, c'est dans tous les manuels d'histoire.
Mais et puis c'est pas ce qu'on voit non plus, c'est ça qui est bien. Alors le film s'ouvre sur la scène de guillotine, donc là il n'y a plus aucun doute. Mais c'est vrai que les longues années d'emprisonnement, on voit en fait ce qui est avant. On voit le retour de Maria Stuart à la cour d'Écosse et tout ce qu'elle va tenter de faire pour convaincre sa cousine de lui céder son trône en héritage. Alors, le hasard du calendrier fait que, malheureusement pour lui, ce film sort dans la foulée de La Favorite de Yorgos Lanthimos.
Eh oui, mais même moi, j'étais tout perdu.
C'est ça, voilà. Donc, La Favorite, c'est une sorte de trio féminin à la cour d'Anne d'Angleterre au XVIIIe siècle. Dans Maria Stuart, on commence au moment de sa mort, c'est-à-dire à la fin du XVIe siècle. Donc, il y a quand même plusieurs années qui séparent ces deux films. On pourrait penser que Avec ses longues focales, avec ses grands angles, etc., Yorgos Lanthimos a livré un film définitif sur la cour d'Angleterre. Donc, il n'y a plus besoin d'aller voir de films en costume encore pendant un moment. Mais je trouve tout de même que ce film vaut le détour, en tous les cas, pour pas mal d'aspects, notamment la confrontation entre ces deux femmes. Entre ces deux cousines, elles s'affrontent d'abord par leur visage. C'est vrai que la très jeune, alors je vais essayer de le redire, Saoirse Ronan. Merci. On va laisser Stéphane parler. Elle est elle est d'abord très apprêtée, puis elle est de plus en plus fragile, alors que le visage de la reine Élisabeth est de plus en plus grimé, de plus en plus artificiel et rigide, puisque elle a eu la variole.
Petite vérole.
la petite vérole, pardon.
Comme on disait. Non, mais ouais. C'est la variole, c'est pareil.
Et que ça lui a laissé des marques. Ouais. L'actrice est très, très enlaidie pour l'occasion. Mais je trouve que c'est très intéressant ce qui se joue autour de leur corps, de leur découverte du corps. Maria Stuart va découvrir le plaisir avec un mari qui est vraiment épouvantable. Outre qu'il préfère les garçons, de toute façon, il est aussi, il est très pleutre, il est malhonnête. Voilà. Enfin, elle fait des mauvais choix, elle fait des mauvais choix stratégiques, politiques. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu punk, un peu queer à ce film. Elle porte, Maria Stuart, une boucle d'oreille en anneau qui aurait fait frémir la scène londonienne dans les années 80. Enfin, c'est très anachronique comme ça. Et puis elle est très tolérante vis-à-vis de l'homosexualité. Enfin, y a quelque chose de très contemporain, peut-être complètement faux historiquement, mais qui moi m'a intéressée. Et puis face à cela, on a une Elisabeth, alors je trouve le personnage un petit peu plus faible, mais qui a décidé d'être ascétique, de renoncer à la chair, véritablement.
Stéphane.
Alors que voilà, si elle n'avait pas renoncé, peut-être qu'elle aurait pu enfanter. Et puis parce que là, cette rivalité, c'est qui aura un enfant mâle qui va hériter le trône et qui peut-être pour la première fois voit trois d'Angleterre et d'Écosse. C'est vrai que j'aime assez cette rivalité à distance.
Angleterre et Écosse étaient en guerre. L'Écosse soutenue par les Français via la Old Alliance. Voilà. Et puis contre l'Angleterre.
Voilà, pays qui était devenu protestant. Ouais. Marie Stuart revient. Ouais. Elle est catholique. On l'accuse d'être papiste, seul du pape, etc. Donc il y a tout ce contexte. Mais finalement, c'est vraiment cette rivalité féminine à distance. Où Elisabeth, depuis le sud de l'Angleterre, depuis en bas, va lui envoyer un mari. Elle va vouloir, Marie Stuart, prendre un autre mari pour montrer qu'elle a le dessus. Donc c'est toute cette réalité, cette espèce d'énorme montage alterné comme ça, qui va culminer sur une séquence quand même de rencontres qui apparemment est totalement fausse, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'arrangements d'après les historiens avec la réalité. Ce personnage gay, on sait que l'Angleterre n'a pas été le pays le plus ouvert pour l'homosexualité encore jusque dans les années 50 et 60. Un film comme ça qui montre deux figures féministes très fortes. Apparemment, elles avaient quand même moins de pouvoir à l'époque, puisqu'il y a toute cette cour autour. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est ce film de coulisses, c'est la théâtralité. C'est le premier long métrage de Josie Rourke qui dirige en fait en théâtre en Angleterre. Et on sent bien ce côté théâtralité, les coulisses, voilà, les petits arrangements, les pressions, les conseillers. C'est le genre de film, il faut toujours prendre un peu le temps de rentrer, parce qu'on a l'impression d'avoir vu ça mille fois, etc. Mais quand on est dans le film et dans son rythme, vraiment quelque chose d'intéressant, puis de redonner voilà, le rôle plus important à Marie Stuart, alors que c'est Elisabeth qui a eu toujours les plus grands rôles, même si Marie Stuart a quand même été jouée par Catherine Hepburn ou Vanessa Redgrave, qui a quand même une longue tradition.
C'est comme un personnage aussi.
Personnage. On avait vu un film suisse il y a quelques années, de Thomas Simard, qui était en compétition à Locarno, qui ne pouvant pas tourner dans des grands châteaux, dans des grands décors, c'était aussi ses coulisses, mais tout était évacué. Et on voit qu'on peut refaire encore un film sur Marie Stuart, c'est toujours intéressant. Voilà,
personnage intéressant.
Oui,
donc
clairement.
Marie Stuart, Reine d'Écosse de Josie Rourke. Voici maintenant Sans froid. Le film est signé Hans-Peter Moldand. C'est donc un remake américain de son propre film à ce réalisateur qui vient, rappelez-nous, Raphaël Boucher de
Norvège.
Voilà. Alors là, l'histoire se passe dans le Colorado avec Liam Neeson, Amy Rossum et Laura Dern. L'histoire d'un conducteur de chasse-neige qui va venger la mort de son fils assassiné par un baron de la drogue. Énorme métaphore.
Monsieur Coxman ?
Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Il s'agit de votre fils.
Il est mort d'une overdose d'héroïne.
On ne connaissait pas notre propre fils.
Kyle n'était pas un drogué.
Pardon, mais tous les parents disent ça.
Kyle est mort. Dis-moi ce qui s'est passé.
Il fréquentait un dealer. Viking. Il aime faire du mal aux gens.
Je vais le tuer.
Ça c'était The Reaper, Blue Oyster Cult, je crois, l'intro qu'on vient d'entendre. Bref, tout le monde s'en fiche sauf moi. Stéphane,
vous brillez là.
Ah non, enfin, non, mais
pour vous-même au moins, Pierre.
Oui, pour moi, je me fais très plaisir.
Non, désolé.
Vous déclarez forfait.
J'ai raté, donc mais bravo. Blue Oyster Cult, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté.
Oui, moi aussi, je dois dire. Sans froid, qu'en avez-vous pensé, Stéphane?
Pas grand-chose. Non, c'est voilà, on est dans un film de vengeance, voilà, effectivement, ce personnage, Neil, joué par Liam Neeson, perd son fils, il décide de se venger et il va liquider tout le monde. Donc là,
Liam Neeson, il ne fait plus que ça, donc on est d'accord.
Ah, il est abonné à ce genre de rôle, ça c'est clair.
Depuis Taken, il y avait eu les Taken, il y en a eu d'autres et tout, mais c'est un peu le Charles Bronson 2.0, je sais pas, c'est un peu ça, il a repris un peu ça.
Y compris Widows, même, de Steve McQueen, où il est aussi un père endeuillé, voilà, alors il n'y a pas forcément la vengeance directement, mais quand même.
Et puis après, c'est pas lui qui prend vraiment le dessus, puisque c'est des femmes. Enfin bref, on va pas non plus refaire tous les films. Mais enfin voilà. Donc après on rentre dans un mode un peu shoot them up, ce genre de ces jeux vidéo où on peut changer d'arme et puis on flingue un peu tout ce qui bouge. Passe, on est dans cette logique là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans une comédie noire, humour noir. Le remake par Hans Peter Moland de son propre film réalisé en Norvège et qui s'appelait Refroidi en français. Voilà le titre original, je ne le maîtrise pas. Et une fois qu'on est rentré dans cette logique, c'est alors il y a quelque chose d'assez amusant parce que chaque fois qu'il y a un personnage qui meurt, on ne voit pas forcément tout. Au début, on voit les meurtres, après on ne les voit plus. Mais il y a simplement un carton à l'écran avec le nom du personnage, son surnom. Et on voit qu'il est mort, on peut s'amuser à compter. Mais en fait, quand j'ai compris qu'il y avait cette logique, je n'avais pas commencé à compter. Donc je ne sais pas combien il y a de morts, mais une bonne trentaine, j'imagine.
Ah, moi non plus, je n'ai pas compté.
Voilà, ouais, on doit être à 30 comme ça.
Une véritable boucherie.
Et l'opposition, ce personnage, voilà, film de vengeance qui va réussir à faire s'opposer deux cartels dans le Colorado. C'est ça qui est intéressant. Le Colorado, Denver d'un côté la ville, les montagnes enneigées du Colorado utilisées comme des personnages à part entière. Ça, c'est intéressant.
Mais je crois que c'était légalisé le cannabis, l'herbe et tout ça dans le Colorado, non?
Oui, ça l'est. Parce qu'à un moment
ils
donné,
en parlent à un moment donné.
Parce qu'il y a justement, il y a dans ces deux cartels, il y en a un, sont des Amérindiens. Et un des personnages lui dit, mais du moment que c'est légalisé avec la bonne herbe, pourquoi tu fumes encore ces merdes qu'on trouve dans la réserve? Donc il y a ça, mais à travers, enfin derrière, voilà, le cannabis, il y a évidemment le marché de l'héroïne. Et quand on a compris que c'est ce film de vendange, qu'il n'y aura pas vraiment de psychologie autour de la vengeance, autour de, voilà, œil pour œil, dent pour dent, un fils pour un fils, on a un peu tout compris. Donc même s'il y a des beaux plans, deux, trois dialogues assez mordants, intéressants, on s'ennuie un peu quand même. On a compris la systématique après, voilà, 20, 30 minutes. Puis ensuite, le film déroule comme ça son canevas et il se passe plus grand chose.
Oui, c'est vrai. C'est un film. Non, mais c'est vrai. C'est un film de petits malins. C'est le film de la bonne idée. C'est un peu bourré de tics. Et puis c'est très programmatique, effectivement. Mais pour moi, c'est quand même une assez bonne surprise parce que je trouve que d'abord, le film met un peu de temps à imprimer son ton. Et d'abord, on a cette situation absolument dramatique de ce couple qui perd son fils, avec ce citoyen, puisque Liam Neeson, conducteur de chasse-neige, est érigé citoyen de la ville au début du film, avec sa femme, ça a l'air d'être assez tendre. Et puis arrive cette horrible nouvelle de ce fils qui meurt dans des conditions épouvantables. Et puis, je me dis, mais on est dans quoi exactement? Jusqu'au moment où ils vont reconnaître le corps à la morgue et où, en fait, le plateau sur lequel est posé le corps commence à monter. Ils font monter, c'est interminable, et le tableau et le plateau grince.
Comme et ça. Il est hors champ, il est en bas, voilà. Donc on ne le voit pas, on voit juste les visages des parents
arriver,
et ça monte.
On voit arriver son profil. On dit, ok, là, on est dans une sorte de comédie macabre. Et je trouve qu'il y a une sorte de mélange des genres, de mélange de tons qui tient assez bien et assez longtemps. Par ailleurs, moi, quand je suis sortie du film, vous aviez vu le 1?
Non, je n'avais pas vu le film original, le norvégien.
Le film original, pardon.
Non, ça, je ne l'ai pas vu.
Alors, il y a un effet assez étrange, c'est que moi, je suis sortie et mes confrères qui l'avaient tous vu ont dit « Ah, mais le 1 était beaucoup mieux, il y avait beaucoup plus de blagues, là, c'est américain, etc. » Enfin, tout ce qu'on a coutume de dire sur les remakes habituellement. Et donc, j'ai vu Refroidi après coup. Et j'ai trouvé celui-là bien meilleur. Pourquoi? Parce qu'en effet, à cause de cet effet tic et surprise et programme, quelque part, une fois qu'on a compris l'histoire, quand on voit l'original, on est un peu déçu. Il ne s'agit pas d'un auto-remake plan par plan exact, mais en revanche, il y a vraiment tous les mêmes, il y a les mêmes personnages, il y a les mêmes meurtres. Et moi, j'ai un collègue qui me disait, mais non, ce n'est pas du tout les mêmes meurtres, il les filme beaucoup mieux, et c'est beaucoup plus sanglant dans Refroidi. Mais non, ce n'est pas vrai, en fait. Je trouve que la version américaine est un tout petit peu plus sentimentale. Je trouve que la bonne idée, c'est d'avoir confronté des cow-boys et des indiens. C'est un vrai western des neiges, aussi, ce film-là. Et quand même, dans les deux films, des personnages assez truculents qui arrivent à exister même s'ils ont des vies assez éphémères, il faut le dire, face à Liam Neeson, avec un frère improbable, avec qui a épousé une asiatique tout aussi improbable, avec un couple d'homosexuels, de garde du corps homosexuels qui cachent leur relation. C'est presque bouleversant, en fait, quand l'un d'eux va mourir. Je crois que là, vraiment, je dévoile rien.
Oui.
Et donc, pour moi, c'était plutôt plaisant jusqu'au bout.
Les personnages secondaires sont effectivement les plus intéressants. Ceux qu'on voit parfois très furtivement sont toujours vraiment très bien écrits et typés. Ouais.
Sans froid, donc, de Hans-Peter Molden. Vous recommandez, donc, on peut le dire.
Plutôt. Mais c'est pas du tout un grand film.
Faut savoir
c'est un film assez modeste.
C'est pas non plus les frères Cohen. Okay. Voilà, mais si on sait ce qu'on va voir, on peut y aller.
Voici maintenant Escape Game. Le film est signé Adam Robitel. Ça commence comme un jeu d'évasion. 6 personnes enfermées dans une pièce. Et bien sûr, ça va mal tourner puisque cette pièce ressemble furieusement à un grille-pain géant.
Ils nous observent. Ils épinent nos moindres faits et gestes.
Ils savent absolument tout sur nous.
C'est
C'est mon lit d'hôpital.
Il y a le mien aussi. Ils ont créé ce jeu pour nous.
Vous avez déjà vu des choses apparaître comme par magie?
Je ne suis pas en train de rêver.
Survivre est un choix.
Je veux sortir, laissez-moi sortir d'ici.
Voilà pourquoi ils nous ont choisis.
Pour nous faire griller. C'est bien ça, Raphaël Boucher. Moi, j'ai vu que la bande-annonce, j'ai l'impression que tout à coup, ils sont dans un grille-pain géant, vraiment, quoi. Ils ont appuyé sur un bouton, c'est le coup. Comme ça.
Alors c'est la scène d'ouverture peut-être, ouais, quand les parois de la pièce se referment et qu'il y a un personnage qui est coincé à l'intérieur, c'est peut-être celle-là. Bon bref, non. De toute façon les décors sont pas particulièrement impressionnants. Enfin, il y a pas grand-chose à sauver dans ce film. On a le sentiment d'un scénario qui surfe très allègrement sur un phénomène de mode que sont les escape rooms, ouais, que tout le monde pratique, ou presque. Un sentiment de déjà-vu, puisque éliminer les personnages un à un, bon, Liam Neeson vient de le faire, on en a parlé.
Agatha Christie le fait depuis très longtemps.
C'est ça, aussi. Non mais puis voilà, c'est l'un des ressorts aussi ouais, des films d'horreur. On pense à Saw, on pense à Cube, on pense à des films aussi avec une certaine paranoïa comme Hunger Games, où les adolescents sont très manipulés, capturés, où il y a des sociétés secrètes, voilà. En plus de ça, le film réunit bien entendu un catalogue Benetton de personnages avec des couleurs de peau diverses et variées. Donc c'est un produit qui est extrêmement formaté pour appâter les adolescents. Je trouve qu'il y a très peu de suspense, dans la mesure où il n'y a pas d'enjeu, on ne connaît pas véritablement les personnages au début du film et qu'on apprend qu'à la toute fin, pour quelles raisons ils ont été mis dans cette situation, on s'en désintéresse extrêmement vite. Ça aurait pu être très immersif, ça aurait pu être une réflexion totalement méta sur le cinéma, puisque après tout, on prend quand même du plaisir, on est censé prendre du plaisir à regarder de pauvres personnages qui sont coincés dans un cadre. Ouais. Mais voilà, le film passe à côté de ces enjeux-là.
C'est un pur film de divertissement pour ados.
Oui, mais pas très bon. On peut offrir de très très bons divertissements pour ados.
Oui, absolument, absolument. Ouais. Très bien. On va passer maintenant au dernier des films dont nous allons parler aujourd'hui. Et on en a parlé tout à l'heure avec nos invités, puisqu'on va parler de My Little One, le film donc de Frédéric Chauffat et Julie Gilbert. Stéphane Gobeau, vous l'avez vu, ce film. Est-ce qu'on en écoute quand même encore un petit peu une bande-annonce, histoire de le remettre un peu dans les oreilles?
Mais absolument.
Ah, on fait ça.
I want to go with you.
Mom says school is a patriotic brainwashing machine.
Moi, je vais à l'école de la vie. Je suis demi-sous, demi-américaine, demi-suisse.
Pourquoi tu nous as fait venir?
Jack!
Un extrait donc de la bande originale la bande-annonce de ce film My Little One, signé Frédéric Chauffat et Julie Gilbert, avec à l'écran Anna Mouglalis, Mathieu Demy et Vincent Bonillo, accompagnés de cette petite comédienne, jeune comédienne, Ruby Batenko. Qu'en avez-vous pensé, Stéphane Gobeau?
C'est un film que j'aime beaucoup, figurez-vous. On a parlé tout à l'heure d'un film comme Sang Froid, Jusqu'ici Tout Va Bien, qui sont aussi des films de scénario dont on sent vraiment l'écriture, les ressorts. Là, on est plus dans un film d'atmosphère, un film d'ambiance, et plus la façon dont l'histoire est raconté qui m'a intéressé que l'histoire en fait pour elle-même. Si on connaît, j'imagine que vous avez reçu les réalisateurs, donc ils ont parlé de leur travail antérieur, La Veuve des Tailleurs et surtout Mangrove qui était filmé dans la jungle mexicaine, avec toujours cette idée du déracinement, de retrouver nos racines, savoir exactement d'où
d'une
on vient, qui on est, le passé, une femme au centre de l'histoire, etc. On retrouve tous ces thèmes. À la jungle, ils opposent ici le désert, qui filme magnifiquement bien. Moi, dès le premier plan, en scope, avec un personnage qui attend seul dans le désert, il y a évidemment toute une mythologie du cinéma américain qui nous revient, du road movie, du western, des montagnes et tout. Donc moi, c'est un plaisir comme ça de cinéphile, un plaisir esthétique directement. Et ensuite, quand j'ai compris comment ces personnages fonctionnaient, c'est un petit peu flou pendant les 20 premières minutes, on ne sait pas trop, voilà, la relation qui unit les deux personnages masculins à cette femme, est-elle malade, pas malade, pourquoi elle les fait venir. Et une fois qu'on rentre dans cette logique comme ça, il y a quelque chose de très sensuel, de très charnel qui nous prend, peut-être aussi on pense à ça parce qu'on est en territoire Navarro, je crois que c'est le premier film d'ailleurs étranger tourné en Arizona dans les terres Navarro, avec une utilisation extrêmement maligne de la musique également, qui nous emmène comme ça, de la musique off-in, c'est-à-dire de la musique qu'on entend vraiment, qui est jouée dans le film, ou de la musique voilà, qu'on entend, que seul le spectateur entend. Donc il y a quelque chose qui m'a vraiment emporté dans ce film, qui est déjà une production 100% suisse, et c'est déjà assez rare pour le rappeler, puisqu'on fonctionne beaucoup avec la coproduction. Alors on pourrait peut-être lui reprocher d'avoir peut-être trop de métaphores, d'utilisation de certains animaux, du désert, d'autres choses, mais si on se laisse emporter par ce plaisir esthétique, il y a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. On a la croisée de différents genres, quelque chose de psychologique, quand voilà le passage entre la vie et la mort. Il y a c'est un film qui, voilà, chamanique. Il y a un côté un peu chamanique. Ouais, y a quelque chose comme ça en fait qui nous emporte. Et ces images qui sont, enfin voilà, il y a un plaisir esthétique. On sent qu'il y a un plaisir de mise en scène chez le duo de réalisateurs qui est vraiment extrêmement intéressant. Donc moi, c'est un film que je trouve vraiment réussi. On pourrait l'opposer. Enfin, on a eu il y a une année, il y a un autre film roman que je trouvais formidable qui était Fortuna de Germinal Rowe. Et là, on était une image carrée en noir et blanc. Dans les Alpes suisses enneigées, là on est en couleur, en scope, dans le territoire américain. Ça montre la diversité du cinéma d'auteur roman. Et je trouve, voilà, ce film, Little One, absolument réussi.
Bon, ben voilà, pour vous, il est totalement réussi, ce film, Stéphane Gobeau, My Little One, dont on a parlé tout à l'heure avec la réalisatrice Julie Gilbert, le réalisateur Frédéric Chauffat, et puis la comédienne également, Anne Mouglalis, qui était à nos côtés. Je vous signale que le film, évidemment, sort aujourd'hui, puisqu'on en parle dans Vertigo, et qu'il est présenté ce soir au cinéma L'Escala à Genève à 19h45. Ce sera également le cas demain aux Galeries du Cinéma à Lausanne. Je ne dis pas de bêtises, je crois. C'est bien aux Galeries. Hein.
Vous me regardez en fronçant les sourcils, je ne sais pas.
Bon, donc, écoutez, voilà. Je crois que c'est les Galeries. Et puis après-demain, à Neuchâtel, ce sera sans l'actrice et sans les acteurs, parce que Vincent Benillo et Anna Mouglalis ne seront pas présents après-demain à Neuchâtel.